pour moi que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Quand même étonnant, hein ? La croix du Seigneur est notre seule fierté. Voyez, ça nous pose cette question, juste en entrant dans cette période estivale, de notre rapport au monde. On pourrait relire toute notre année, hein, notre année pastorale, à travers cet angle. Quel a été notre rapport au monde, hein, l'Église qui est plantée dans le monde de ce temps. Je voudrais relever avec vous trois niveaux ce matin, trois niveaux de notre rapport, du rapport du chrétien au monde. Le premier niveau, on l'a entendu chez saint Paul, c'est que le monde est crucifié. Le monde est crucifié pour moi. Si le monde est crucifié, c'est qu'il est en train de mourir. Généralement, la crucifixion, ça finit comme ça. Il est en train de mourir, et saint Paul le dira ailleurs, il dit « la figure de ce monde passe ». Saint Jean, il dira « le monde passe ». Et donc, le monde est en train de mourir, le monde est crucifié. En même temps, il n'est pas crucifié, il n'est pas en train de mourir pour le néant, mais pour, justement, nous laisser dans l'attente d'un monde nouveau. On ne fait pas simplement le constat que tout ne tourne pas rond sur la terre et qu'on essaye d'y remédier tant bien que mal. Nous sommes aussi dans l'attente d'un monde nouveau. Nous espérons et nous avons cette certitude que le monde nouveau va venir. Il y avait l'Épître aux Hébreux qui parlait un petit peu de tous les anciens, des patriarches, du peuple hébreu. Ils disaient ils vivaient sous des tentes. Ils étaient comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre. Ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Pour eux, ce sera la terre promise. Mais pour nous, c'est véritablement cette patrie des cieux. En fait, nous attendons la Jérusalem nouvelle, hein, que rappelait la première lecture. Ça nous fait penser à cette fête juive, hein, qu'ils fêtent au mois d'octobre. C'est la fête des tentes, la fête des cabanes. Ils se mettent dans leur petite cabane, ils construisent des petites cabanes, ils sortent de leur maison en dur et ils construisent des petites cabanes sur leur terrasse, dans leur jardin. Et puis, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils étudient sous leur petite cabane, alors que leur maison en dur est juste à côté. Pourquoi ? Pour se rappeler cette condition humaine qui est fragile. Et pour dire, en fait, nous sommes dans cette condition humaine qui est fragile, qui va passer, la figure de ce monde passe, mais nous attendons les temps messianiques. Nous attendons la Jérusalem d'en haut. Et qu'est-ce que nous attendons dans l'Évangile ? Nous, que nos noms soient inscrits dans les cieux. Alors, il y a un parterre de guides devant moi. Vous allez camper cet été ? C'est prévu ? Oui, c'est pas annulé ? Bon, super. Quand vous serez dans vos tentes, avant d'aller dormir sous les étoiles, vous aurez un regard vers le ciel. Et vous regarderez le ciel et vous ferez cette expérience comme la petite Thérèse, qui a, je sais pas, 4-5 ans et qui s'émerveille devant le ciel, devant toutes les étoiles, et qui voit qu'il y a quelques étoiles qui forment un T, le T de Thérèse. Elle dit, mon nom est inscrit dans les cieux. C'est tout bête, mais ça n'empêche que cette petite enfant, la petite Thérèse, elle nous apprend ça, que nos noms sont véritablement inscrits dans les cieux. Et donc vous aurez à chaque fois, avant d'aller dormir sous les étoiles, ce regard vers le ciel, de dire « mais mon nom, il est inscrit dans les cieux ». Et c'est ça qui fait ma joie. Donc la premier élément, premier niveau, le monde est crucifié. Il est crucifié pour moi. Il est en train de mourir, il est en train de passer et il laisse place à cette Jérusalem d'en haut. Deuxième niveau, chez saint Paul, je suis crucifié. Je suis crucifié pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais mourir en moi l'esprit du monde. Le danger qui guette l'Église, c'est la mondanité, c'est l'esprit du monde. L'Esprit Saint souffle rarement dans le même sens que l'air du temps. L'actualité récente de l'Église nous le montre encore. Vous savez qu'il y a un synode actuellement. Non, vous n'êtes pas au courant. Lisez l'actualité, Aletheia, Zénith, Vatican News, tout ça, voilà. Il y a un synode sur la synodalité. Je vous avais peut-être lu le rapport, la collecte du synode. Il y a des très bonnes choses qui sortent sur la vie de l'Église, c'est super. Enfin, on parle de la fraternité, on est tous frères, on est tous une même famille. On parle de la collaboration entre prêtres et laïcs, c'est super, il faut avancer sur ces questions, très bien. Mais à certains moments, on a l'impression, je me lâche un peu, je suis désolé, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous laissez ce qu'il y a à laisser. Mais quand ce n'est pas des règlements de compte, quelquefois c'est des propositions qui sont juste pas catholiques. Juste pas catholiques. Donc lisez la collecte nationale, vous allez déprimer. Si vous voulez vous remonter un peu le moral, lisez la collecte de Vannes. Je pense que c'est la seule qui est bien. Cocorico, mais enfin, c'est la seule qui est bien. Bon, c'est comme ça. Bon, bref. Non, mais quand on parle, à chaque fois qu'il y a un truc dans l'Église, on nous ressort, on nous remet sur le tapis le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, un gouvernement démocratique, je sais pas quoi. Il faut installer des contre-pouvoirs sur les évêques. Ah mince. Enfin, si c'est le regard que vous avez sur vos prêtres et sur votre évêque, il faut sortir de cette église. Au secours. Au secours. Le pape François, il nous donnait cette ligne de lecture qui a été rappelée normalement dans chaque commission nationale. Nous ne voulons pas de rupture, mais une impulsion spirituelle. Nous voulons être clairvoyants et attentifs aux signes des temps, tout en sachant qu'ils ne doivent pas être confondus avec l'esprit du temps. Nous sommes attentifs aux signes des temps qui ne sont pas confondus avec l'air du temps, avec l'esprit du monde. Voilà la ligne de lecture. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'inverse. C'est insupportable. Voilà, je me suis lâché. Ça va beaucoup mieux. Troisième niveau, être crucifié. On fait un focus sur le terme crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire crucifié ? Pour Jésus, ça veut dire aimer. Ça veut dire sauver. Jésus, il est venu pour aimer le monde. Il est venu pour le sauver. Ce qu'il y a de sauvable dans le monde, s'il se laisse sauver. Pour le chrétien, la manière dont il apporte l'amour, dont il apporte le salut au monde, ça s'appelle évangéliser. Apporter cet évangile, apporter cette bonne nouvelle au monde qui est en attente de quelque chose, qui ne sait pas où il va, ce monde. Tout le monde est perdu. Mais ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin d'être récupérés quelque part, ils ont besoin d'avoir une boussole. Et donc, apporter cet évangile. L'évangile, c'est la boussole. Ça nous montre ce chemin vers les cieux. Évangéliser, la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, elle existe pour évangéliser, disait Paul VI. Et puis on a cette belle page d'évangile, justement, avec cet envoi des 72. Moi, je vous donne une petite chose, un petit travail à faire cet été, mais évangéliser par l'amitié. Je sais pas, vous allez voir vos amis, la famille, c'est plus difficile, mais vos amis, vos amis doivent savoir ce qui vous fait vivre. Ils doivent le savoir. Ils sont en droit de savoir ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer. Et si vous êtes là ce matin, c'est que, quelque part, le Christ vous fait vibrer. Et que son évangile retentit en vous. Ils sont en droit de voir que cet évangile change quelque chose de votre vie. Ils ont le droit. Comme petit exercice, vous lirez l'édito du père Jean-Baptiste. Je pense que tout est là. Il suffit de le faire. Amen.